This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire ou quand le jazz retrouve ses repères. Une émission préparée et proposée par Alain Vaquier et Gérard Viols, avec aujourd'hui à la technique donc Léna. ...1986, année noire, année catastrophique. En effet, après Tchernobyl, comme on dirait les Américains, Tchernobyl, yeah. Eh bien, on va se retrouver effectivement aux États-Unis, où là, l'Amérique est frappée de plein fouet par un accident qui va entraîner la mort de 6 astronautes et d'une passagère. En effet, le 26 janvier 1986, orbiteur 999 Challenger, eh bien, un second véhicule envoyé dans l'espace avec des astronautes va exploser en plein vol après 75 secondes sa mise en orbite. L'Amérique est sous le choc. Comment cet accident a-t-il pu se produire? La nation qui a voulu conquérir la Lune, eh bien, est-elle dépassée? Pourtant, à la NASA, tout se passe ainsi.
Your engine gimbal now underway. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6. We have main engine start. 4, 3, 2, 1. And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, three engines running normally, three good fuel cells, three good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, three engines now at 104%.
Challenger, go with throttle up.
Challenger, go with throttle up.
Minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Carefully at the situation. Obviously a major malfunction. We have no downlink.
Et oui, ainsi à la NASA, lors du décollage, tout le monde applaudit, fier de ce succès, mais vous l'avez constaté, au bout de peu de temps, c'est grand silence, car en effet, malgré la tentative, eh bien, Challenger ne répond plus. On ne comprend pas pourquoi la NASA. Il faut dire que le programme Challenger avait commencé le plus mal possible. Dès 1982, les ennuis vont commencer. Avec un premier vol, on va détecter sur l'orbiteur, celui qui va mettre donc en orbite effectivement la fusée, le compartiment moteur, une fuite hydrogène. Ça commençait mal. En 1983, une année après, On constate qu'après le lancement de Challenger, les boosters ont vu leur tuyère complètement transpercée par les gaz de combustion. Il s'en est fallu de peu déjà d'une première explosion. En 84, le compte à rebours est arrêté in extremis, 4 secondes avant l'allumage des boosters, et le décollage de Discovery, lui, est arrêté une nouvelle fois. En 85, au mois de mars, cette fois-ci c'est à Kennedy où on prépare la mission, eh bien, un panier métallique va chuter et va endommager une partie donc, d'une part du matériel de la NASA, mais également chuter sur deux ouvriers qui passaient par là et qui s'affairaient autour justement des moteurs de la navette. C'est ainsi que ça commence très très mal, et pour ne rien vous cacher, ce qui s'est passé vraiment ce jour-là, c'était plutôt ceci.
Les trois moteurs à hydrogène-oxygène liquide allumés, les deux gros boosters à poudre qui donnent ces traînées oranges fonctionnaient parfaitement. La fusée passe sur le dos, s'incline, la trajectoire est nominale. Et puis regardez bien, tout s'est joué à 45 secondes devant 1200 personnes, 1200 élèves. Regardez bien. Une énorme boule de feu, l'un des boosters, l'une des fusées à poudre part à droite, l'autre part à gauche, de ce côté-là, tout a été normal. Mais regardons maintenant les images arrêtées. Vous voyez à l'arrière de l'engin des flammes orangées près des moteurs. Un peu anormal. Mais surtout, fixez bien l'écran entre la navette qui est à droite et à gauche, le gros réservoir sur lequel, vous avez vu, cette flamme entre les deux, c'est là qu'a démarré l'explosion. Et immédiatement après, les 850 tonnes d'hydrogène, oxygène liquide, se sont enflammées, transformant la navette en une énorme boule de feu, entraînant bien sûr la mort de l'équipage.
Alors quel était l'équipage à bord de cette fameuse navette qui avait explosé? Eh bien, tout d'abord, il y aura bien sûr le commandant, Francis Dick Scooby, 46 ans. Il était, lui, un pilote de chasse durant la guerre du Vietnam et il va donc décéder ainsi. À ses côtés, il y aura également le copilote Michael G. Smith, 40 ans. Il est, lui aussi, un pilote chevronné, pratiquement pilote d'essai sur beaucoup, beaucoup de vols de la NASA déjà au sol. Si on peut dire des vols au sol, ça paraît incongru ce que je viens de dire, mais tout simplement on faisait des essais parce que vous doutez bien qu'on n'envoyait pas des hommes dans l'espace sans savoir quelles étaient leurs qualités. Et c'est son premier vol spatial, donc pour Michael Smith. Et à ses côtés, il y aura donc la toute première américaine astronaute qui va être donc mise en orbite, c'est Judith A. Resnick. Il y aura également Ron McNever. C'est le Benjamin de l'équipage. Il y aura également Ellison Onizuka. C'est un astronaute depuis 1978. Il n'a pas moins de 700 heures de vol au sol, une nouvelle fois à son actif. C'est son second vol, lui, pour la mission militaire. On va également ajouter cette fois-ci un astronaute du programme Gregory B. Jarvis, lui aussi, premier vol, 41 ans. Et puis alors celle qui vraiment va émouvoir toute l'Amérique, ce sera Christa Corrigan McAuliffe, car en effet, ce sera la première enseignante qui avait été sélectionnée pour participer cette fois-ci à un vol justement avec des astronautes chevronnés. Elle a 37 ans, mariée, mère de deux enfants, professeure d'anglais et d'histoire américaine, et elle a été sélectionnée en juillet 85 dans le cadre du projet Teacher in Space, qui avait été inauguré par Reagan le 27 août 1984. Ce sera donc la première civile non militaire qui va périr effectivement dans ce vol de la NASA. Vous doutez bien que l'Amérique est sous le choc et évidemment que partout et de partout vont arriver des condoléances ou tout au moins ce qu'on appellera des réactions. Ainsi, le président Mitterrand, à l'époque, eh bien, va devoir, et c'est le moindre de ses devoirs, c'est de faire part de ses réactions au nom du peuple français au président Reagan. Elle indiqua ainsi « Les Français ont ressenti à l'annonce de l'explosion de la navette une profonde émotion et une sincère compassion pour les astronautes qui se trouvaient à bord. Cela a toujours été le destin des peuples courageux, découvreurs de mondes nouveaux, que de payer ainsi un lourd tribut. Mais nous savons que rien ne décourage l'humanité dans sa marche en avant. » Il y aura également Hubert Curien, ministre de la Recherche Technologique, qui se dit atterré par la nouvelle du drame. Il y aura également le centre spatial, évidemment, qui va déclarer qu'il partage avec la NASA et l'opinion publique la profonde émotion provoquée par cet événement douloureux. Et ils vont rendre hommage au mérite, au courage des astronautes à bord de Challenger. Et ne doute pas que la NASA, comme par le passé, saura surmonter une telle épreuve. Alors pendant ce temps, eh bien, aux États-Unis, qu'en est-il du jazz ? Vient de se développer une nouvelle formule dans le concept, avec uniquement cette fois-ci, pas de section rythmique, mais simplement des saxophonistes. Ils sont quatre, le World Saxophone Quartet.
Thank you.
Take the Train par le World Saxophone Quartet. Alors, après les incidents, l'accident même dira-t-on, survenu aux États-Unis, eh bien, que se passe-t-il en France ? La France, elle, n'est pas épargnée, certes à un moindre degré, mais cette année-là vont disparaître des vedettes du showbiz et peut-être le plus connu, ce sera bien sûr Coluche. Le 19 juin 1986, eh bien, le clown grossier, mais jamais vulgaire comme il le disait, il va trouver la mort sur une route dans les Alpes-Maritimes. Il était dans les Alpes-Maritimes parce qu'il avait décidé de préparer là-bas son prochain spectacle pour le Zénith en septembre. Et il avait décidé de l'appeler « Il y en aura pour tout le monde ». Ça veut dire que d'ores et déjà, le ton était donné dans le titre. Il faut dire que l'humoriste était pourfendeur des travers de notre société, certes, mais il n'hésitait pas également à s'attaquer à pourvendre les valeurs de la politique. Il ira même jusqu'à se présenter aux élections présidentielles en 81, avant de se retirer en ayant fait marrer la France entière, sauf les politiques, bien sûr. Il déclarera à ce sujet « Avant moi, la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre. » Comme quoi l'humour ne quittait jamais ce grand monsieur qu'il était. Alors, il était aussi un grand comédien, on aurait peut-être tendance à l'oublier. Faut-il rappeler qu'il a obtenu un César du meilleur interprète pour dans le film « Ciao Pantin », où il était là, il représentait donc un pompiste au grand cœur. Du cœur, Dieu sait s'il en avait, Coluche, car comment pourrait-on oublier qu'il est à l'origine des Restos du Cœur, qui perdurent encore aujourd'hui, qui est un peu le mal du siècle, on va dire, pour la France, parce qu'encore aujourd'hui, eh bien, s'il était là, il s'intéresserait toujours aux déshérités, aux plus pauvres et à ceux qui n'ont pas, comme il disait si souvent, de quoi bouffer tous les midis. Voilà, c'était ceci Coluche, et par conséquent, le 19 juin, il va arriver ceci.
16h55 sur la route sinueuse qui va de Valbonne à Opio, à 5 km de Grasse. Coluche, sur une Honda 1100, débouche d'un virage et ne peut éviter un camion de 38 tonnes qui coupe la route pour pénétrer dans un petit chemin. La route est sèche, pas le temps de freiner, la moto se couche. Coluche est projeté sur le camion, sa tête s'écrase sur le phare droit, la mort est instantanée. Cette route est connue pour être dangereuse, mais il semble que la vitesse soit à l'origine de cet accident. Coluche n'a rien pu faire, le chauffeur du camion l'a aperçu au tout dernier moment.
J'étais engagé, je ne l'ai pas vu, il m'a débouché, je l'ai vu quand il était un peu là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, je ne peux rien vous dire.
Il allait vite ?
Ah oui, très vite.
Combien, à quelle vitesse ?
Je ne peux pas vous dire, mais je vous dis qu'il allait très vite.
Il a eu le temps de freiner ?
Il n'a pas freiné, il n'y a pas de marque de freinage. Ses copains se sont arrêtés, il s'est pas arrêté lui. Il n'y a pas de marque de freinage, ça c'est la béquille qui a touché par terre, voilà. Alors moi j'ai été loin, mais ils sont tous partis. Enfin, c'est malheureux, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Ça fait 50 ans, 40 ans que je conduis, alors c'est pas de maintenant. Hein.
Le célèbre comique était dans la région depuis le 10 mai. Il résidait avec des amis dans une maison de Châteauneuf de Grasse. Fanatique de moto et de vitesse, il avait battu l'année dernière un record du monde de vitesse en Italie, mais sur un circuit sans danger. À vous, Gérard Pinson.
Et oui, c'est donc la mort de Coluche tragique. Il faut dire que la vitesse, il connaissait effectivement, puisqu'il avait donc, en 1985, au mois de septembre, le 29, atteint le record du monde de vitesse sur moto avec sa Yamaha 750. Il atteignait la vitesse de 252,887 km/h pour être très précis. Et à partir de là, il avait envisagé de renouveler d'améliorer encore ce record. Alors, cet accident, effectivement, va donner lieu à bien des controverses. On parlera carrément d'assassinat, d'attentat, parce qu'il faut savoir que, effectivement, Coluche heurte les idées des politiques, il heurte les idées de beaucoup de gens, et par conséquent, sur cette route qui est limitée à 90 à l'heure, alors que le chauffeur du camion vient d'indiquer qu'il roulait à une très grande vitesse, le constat de gendarmerie fera état d'une vitesse n'excédant pas 60 km/h. Par conséquent, on se pose des questions, on s'en posera encore aujourd'hui, car pour l'instant, évidemment, on va dire que le procès a été enterré, en même temps que Coluche. Mais comment dire qu'un chauffeur de moto aussi expérimenté que lui, motard dans l'âme, il était là avec deux amis, eh bien, ces deux amis témoigneront de faits très complexes, à savoir qui dit la vérité, qui ment. Ils diront notamment que Comment peut-on comprendre, alors que le chauffeur indique qu'il n'y a pas de témoins et que les témoins ont disparu? Eh bien, selon eux, qui étaient donc présents avec Coluche, qui ont pu s'arrêter à temps pour éviter l'accident, le camion pratiquement était déjà engagé sur la route. Et lorsque Coluche est à terre, eh bien, le chauffeur descend et il a déjà à la main les papiers pour remplir par rapport à l'accident. Donc comment, avant de s'interroger, de savoir quel est le degré de l'accidenté, le chauffeur se préoccupe surtout de savoir, lui, comment il va pouvoir témoigner. Donc par conséquent, bien des faits troublants entre la gendarmerie, le chauffeur, les amis de Coluche feront que, eh bien, on ne saura jamais quelle est la véritable histoire et le tragique destin de Coluche qui nous a quittés bien trop tôt. Voilà ce qu'on peut dire. Et puis, il faut dire que cette année-là, eh bien, décidément, le showbiz va payer très cher, très très cher en France, cette année 86, avec celui que nous n'oublierons pas en écoutant ceci.
C'est le triomphe habituel, hein ? Partout où je vais, une autre, ils en réclament une autre.
Écoute, Alice, tu as été superbe.
Merci.
Et la chose qui m'a le plus surpris, ce sont tous ces spectateurs qui gesticulent dès que tu rentres en scène, mais c'est formidable.
Oui, ce sont des bras d'honneur, en mon honneur, chérie, chérie, oui, enfin, je dois dire que nous sommes des stars. Toi, tu es une star, moi, je suis une star tignole, disent certains. Mais enfin, je dois dire que les spectateurs me laissent rarement jouer la pièce jusqu'au bout, chérie.
Mais tu es une vraie bête de scène.
Tu t'en es rendu compte, toi aussi, c'est vrai que je suis une bête, une vraie bête, chérie, chérie. Quand je pense à ce Luron Nounet, mon chérie, chérie, qui se permet de critiquer mon énorme...
Ton énorme, d'accord. Mais enfin, Alice, on est ce qu'on est. C'est pas grave, on a le physique qu'on a. Et puis bon, il n'est pas si énorme que ça.
Je parlais de mon talent, chérie, chérie. Tiens, attends, bouge pas. Faut que je me fasse mon raccord pour l'entracte.
Oh. Du plâtre?
Oui, mais, chérie, chérie.
Mais tu n'as pas fait un lifting?
Oh, jamais, chérie, chérie, c'est trop dangereux. Non, tout est dans le maquillage.
Effectivement, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr l'irrévérencieux, mais le dandy humoriste et imitateur Thierry Le Luron. Alors, bien évidemment, Le Luron, c'était un personnage qui a, allez, mystifié bien des gens qui l'imitaient et tous se disaient être son ami, évidemment. Même Jacques Chirac dira qu'il était son ami. Peut-être celui qui lui fera le plus de remontrances et qui l'aura le moins apprécié, c'est peut-être Giscard d'Estaing à cause de ceci. Vous savez, ce jeu de bouche qui faisait qu'on reconnaissait immédiatement les parodies de Thierry Le Luron. Il y aura également Lynn Renault qui deviendra son ami lorsqu'il faudra effectivement faire en sorte qu'on se mobilise pour le sida. Il y aura Dalida qui était présente ici, qui l'aura imité et vraiment tourné en dérision sur scène. Et tous ceux qui seront passés dans ces imitations diront que c'était vraiment un monsieur très charmant qui avait pour qualité première le professionnalisme. Et on ne saura jamais s'il est vraiment mort du sida ou pas, parce que sa maman n'a jamais voulu connaître la vérité par rapport à cela. Mais tous ses amis vont témoigner du profond attachement qu'il lui portait. Et il faut dire que, comme tous les humoristes et imitateurs, eh bien, Thierry Luron avait aussi une voix.
De la représentation, Thierry est victime d'un malaise. À l'hôpital Lariboisière, les médecins diagnostiquent une grave méningite virale qui nécessite 3 mois de repos. 4 semaines plus tard, Thierry revient au gymnase. Les rumeurs se multiplient. On le dit atteint d'un mal beaucoup plus grave, il répond à sa manière.
Après 1 mois de vacances bien méritées, Le Luron a donc repris la route pour faire taire les mauvaises langues.
Alors dites-moi, Thierry Le Luron, toutes ces rumeurs-là, où en êtes-vous?
Écoutez, il faut que je vous avoue que c'est vrai. Et plutôt que ce soit d'autres gens qui le disent, je préfère le dire moi. J'attends un bébé pour décembre.
Thierry donne quelques galas et passe l'été à Saint-Tropez dans une propriété qu'il vient d'acheter. Le 22 octobre 86, à 18h, les radios diffusent un communiqué du professeur Schwarzenberg. Thierry souffre d'un cancer des cordes vocales et se voit contraint d'annuler sa rentrée au Palais des Congrès 1 mois plus tard. Thierry ne reçoit plus personne, ne répond pas au téléphone. Il écrit en revanche, en particulier à Monseigneur Di Falco, qu'il a assuré de son soutien moral. C'est sans doute la seule fois qu'il avoue la souffrance qu'il endure depuis près d'un an. Dans la nuit du 12 au 13 novembre 86, à bout de force, Thierry Le Luron nous quitte. Il avait à peine 34 ans, c'est la première fois qu'il nous fait pleurer. Le 18 novembre, en l'église de la Madeleine, celles et ceux qu'il a égratignés ou admirés pendant sa trop courte carrière viennent lui dire adieu. Il y a des hommes politiques, des artistes, des journalistes, des animateurs de télévision et des amis. Sous les voûtes de la cathédrale, on entend une dernière fois la voix de Thierry, chantant des couplets que lui a écrit Charles Aznavour, des couplets d'espoir en d'éternels lendemains.
Nous reverrons un jour ou l'autre, le monde est petit, profitons-en. Si votre chemin passe par le mien, ma roulotte croisera la vôtre.
Et oui, donc Thierry Leluron avec sa propre voix, c'était aussi vraiment un hommage que avait lui donné Charles Aznavour en lui composant cette chanson. Et puis effectivement, il faut dire que le showbiz est gravement touché cette année-là parce que va aussi disparaître le légendaire, on va dire, et contestataire et chanteur qui défendra toujours à la fois effectivement les inégalités et le racisme. Ce sera donc évidemment Daniel Balavoine, décédé dans le Paris-Dakar.
La tragédie du Paris-Dakar a fait 5 morts. Dans l'hélicoptère qui s'est écrasé sur une dune de sable à la tombée de la nuit hier soir, il y avait Thierry Sabine, l'organisateur de la course, le chanteur Daniel Balavoine, notre consoeur Nathalie Audan du journal du dimanche, Jean-Paul Le Fur, technicien opérateur radio, et François-Xavier Bagnou, le pilote de l'hélicoptère. 5 jeunes gens, tous passionnés par l'Afrique et par le rallye. Mais il y a le destin et les fatalités, puisque Daniel Balavoine, par exemple, avait horreur de l'avion et il montait pour la première fois dans un hélico. Nathalie Audan, de son côté, suivait le rallye en stop, un jour dans une voiture, un jour dans un camion, un jour dans un avion. Et elle accompagnait Thierry Sabine hier parce qu'un journaliste d'Antenne 2 avait de son côté trouvé une autre place.
Le drame a eu lieu hier soir vers 19h. La nouvelle n'a été connue que dans la matinée. Il s'agit d'un accident.
Le terrain était très très plat, il y a eu une très mauvaise visibilité. Et l'hélicoptère s'est d'abord posé une fois, et puis il a redécollé en suivant un peu les phares d'une voiture. Seulement, ils n'ont pas vu qu'à un certain moment la voiture montait, alors qu'il y avait une dune de 30 mètres, la première depuis 150 km. Et l'hélicoptère, s'est crashé.
Comme vous le savez, il y avait un fort vent de sable hier soir.
Ils sont morts sur le coup. Hein, l'hélicoptère n'a pas brûlé, il s'est complètement disloqué.
Dans la caravane du Paris-Dakar, effroyablement secouée, il semble que l'envie de poursuivre le raid soit la plus forte, malgré l'abattement.
Il faut que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un gagnant du Paris-Dakar. Le problème, c'est que ceux qui vont continuer vont avoir du mal, je pense. Moi, je dois dire que, autant hier, j'étais déçue d'être hors course, autant maintenant, je ne me sentirais plus le courage de continuer.
Continuer, finir ce rallye quoi qu'il arrive, sachant que l'accident peut frapper n'importe qui, n'importe quand, voici ce qui est arrivé à l'hélicoptère d'Antenne 2.
Et oui, certains s'en sortiront, pas Balavoine, et effectivement, eh bien, l'Aziza va nous quitter, et par conséquent, c'est aussi avec cette chanson que nous quitterons donc cette année 86 catastrophique pour la France et bien d'autres pays dans le monde, États-Unis et également URSS, Europe et monde entier.
City.
of all cities knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ça ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.